évidemment, d'une façon assez inattendue, nous assistons aujourd'hui dans le monde à une sorte de confrontation entre les intégristes musulmans et les intégristes chrétiens, n'est-ce pas? Parce que Bush disons, un certain segment de la classe politique aux États-Unis est très ancré dans la foi chrétienne, très intégriste, il croit littéralement au retour physique de Jésus, enfin à la création, il y a 6000 ans, la création par Dieu de la terre, il y a 6000 ans, donc il n'accepte pas l'évolution, etc., etc. C'est même désolant parfois de voir le raisonnement que ces gens peuvent faire. Par exemple, quand un certain James Watt était le secrétaire de l'Intérieur, aux États-Unis, le secrétaire de l'Intérieur gère des ressources comme les mines, etc., n'est-ce pas, les pêches et tout ça. Il y a une pratique aux États-Unis qui s'appelle le strip mining. Je ne sais pas comment traduire ça en français. C'est là où on travaille les mines qui sont sur la superficie de la terre. Donc, on ne creuse pas des trous profonds dans la terre. C'est des métaux, enfin, ou des choses qu'on cherche, qui sont vraiment à la surface. Mais ça gruge la surface. Et c'est pire pour l'environnement que les mines profondes, parce que les mines profondes, ça fait des dégâts si vous voulez, mais ils sont tous cachés, ils sont tous à une profondeur dans la terre, tandis que le strip mining, ça gâche toute la terre en fait, ça transforme la terre en désert, n'est-ce pas? Et puis il y a toujours eu des grandes controverses entre les environnementalistes et le gouvernement et l'industrie, bien entendu, sur le strip mining. Alors, donc, James Watt avait sorti cette phrase souvent citée. Il dit, peu importe, il dit, Jésus va bientôt revenir et le royaume de Dieu sera installé sur la terre. Nous avons quand même beaucoup de strip mining à faire avant qu'il vienne, n'est-ce pas, en fait. C'est-à-dire que pour lui, toute la logique de l'environnement et tout ça n'a rien à voir, parce que pour lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Tous les dégâts possibles, parce que Jésus va revenir, il va tout remettre en ordre. Si on a tué tous les baleines, il va refaire des baleines, enfin, etc. Mais c'est des gens qui dirigent le plus grand pays du monde qui pensent comme ça. Ok? Je les connais, je les ai entendus. C'est des gens qui ont dirigé les plus grosses entreprises du monde, etc., etc., qui croient aussi naïvement que cela, et évidemment, ils agissent dessus. Et de l'autre part, vous avez les intégristes musulmans, des terroristes, etc., enfin, qui ont aussi leur vision, la guerre sainte contre l'Occident et tout ça. Et donc, nous assistons à une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé il y a quelques années, c'est-à-dire une sorte de confrontation entre la foi chrétienne et la foi musulmane, au moins des segments extrêmes des deux, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé que ça serait intéressant de jeter un coup d'œil sur ce que c'est vraiment la foi chrétienne et Jésus, et ce que c'est vraiment la foi musulmane et Mahomet. Et puis on peut discuter après un peu sur les questions des préjugés. Je veux me livrer surtout aux faits, en fait, sans faire beaucoup de jugements. Alors, ce qu'on peut dire de façon historique, c'est que la plupart des chrétiens ont toujours, depuis le début, considéré Mahomet comme un faux prophète. Okay? Donc, la position traditionnelle de l'Église chrétienne, de toutes les églises catholiques, protestantes, tout ce que vous voulez, la vision chrétienne de la foi islamique, c'est que Mahomet était un faux prophète. Et les musulmans, dans le Coran, qui est le livre saint de l'islam, on enseigne que Jésus est un messager de Dieu et tout ça. Donc tous les musulmans acceptent Jésus comme prophète, comme messager véritable de Dieu. Et c'est une des raisons pourquoi les chrétiens n'ont jamais fait, pour ainsi dire, des convertis de l'islam, c'est-à-dire à la foi chrétienne. Parce qu'ils vont vers les musulmans, ils disent, ben voilà, on va vous parler de Jésus. Ils disent, ben, nous croyons déjà en Jésus, n'est-ce pas? Et vous, qu'est-ce que vous croyez à propos de Mahomet? Alors s'ils disent, mais voilà, nous croyons que Mahomet est un faux prophète, mais bon, ça finit là, n'est-ce pas, en fait? Mais vraiment, en fait, on peut lire au 19e siècle, l'ensemble des églises aux États-Unis, en Europe, se sont partagées les missions. C'est-à-dire, ils ont dit, au lieu de faire la concurrence, on va diviser la carte. Les protestants vont aller là, les catholiques là, etc. Ils ont vraiment fait ça. C'est presque la seule coopération qu'on a jamais eue entre les églises. Ils ont divisé la carte. Et c'était certaines églises protestantes qui avaient le monde islamique. Okay. Et ils n'ont jamais fait de vrais convertis. Enfin, le récit, c'est assez intéressant de lire le récit des missionnaires qui ont travaillé avec acharnement pendant des années pour avoir 4 ou 5 convertis. Et c'est assez évident, si vous lisez un peu entre les lignes, que même ces gens-là étaient des arrivistes, enfin, qui faisaient semblant, mais... donc, c'est même une question, est-ce qu'il y a jamais il a eu vraiment une conversion sérieuse de l'islam à la foi chrétienne, n'est-ce pas? Parce que pour les musulmans, c'est comme reculer en arrière. Par contre, on peut aussi acculer les musulmans. Les musulmans ont ce qu'ils appellent le kufr, ça veut dire l'infidélité, c'est-à-dire ils n'admettent pas qu'un musulman peut a le libre choix de rejeter l'islam. Donc, on peut évidemment taxer les musulmans, mais voilà pourquoi les chrétiens n'ont pas fait des conversions. Parce qu'ils risquaient la mort et tout ça. Je ne pense pas que ça soit la raison principale, parce que pensez, les musulmans ont risqué quand même la mort dans les batailles. Mais regardez les fameux djihad et tout ça. Les musulmans ont risqué la mort pour toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Et la même chose, les chrétiens, pendant la persécution des Romains, ils risquaient la mort. C'est le phénomène des gens qui sont martyrs ou qui risquent leur vie pour leur croyance. C'est connu dans toutes les religions. Donc, à mon avis, ce n'est pas surtout cette notion de kufr, en fait, qui est la raison principale qu'il n'y a pas eu de convertis musulmans. Regardez bien qu'il y a bien des musulmans qui sont devenus bahaïs dans tous les pays islamiques. Certains ont été effectivement persécutés et tout ça, certains ont même perdu la vie. Mais s'ils étaient convaincus de la vérité de la foi bahaïe, ils n'hésitaient pas, même malgré les persécutions qui pourraient leur tomber dessus. Donc, je conclue, si vraiment il y avait des musulmans qui étaient sérieusement convaincus que la foi chrétienne était vraie et la foi islamique était fausse, il y a quand même un certain nombre qui auraient agi sur la base de ces croyances. Maintenant, de point de vue chrétien, il y a peut-être 3 ou 4 choses sur lesquelles il s'appuie pour dire que Mahomet est un faux prophète. D'abord, de point de vue historique, disons que Mahomet est venu 600 ans après Jésus-Christ. C'est-à-dire l'égir de Mahomet, qui est la date cardinale, ce n'est pas la naissance de Mohammed, mais l'égir, c'est la fuite de Mahomet. De Mecca vers la Madine, vers la Médine. Et ça, c'était l'an chrétien 622. Donc, 600 ans après Jésus-Christ, Mohammed est venu. Donc, la foi islamique est plus récente que la foi chrétienne. Alors, il y a 3 choses qui repoussent beaucoup les chrétiens. Je voulais juste parler un peu de ces 3 choses. D'abord, il y a le fait Ben, je ne connais pas un ordre canonique. Il a d'abord le point de vue, différence de point de vue sur la sexualité. Ça, c'est une grosse histoire. Un deuxième, c'est le fait que Mahomet et ses adeptes se sont battus physiquement. Tandis que Jésus a dit des choses comme « aimez vos ennemis » et tout ça. Les chrétiens, par exemple, ne résistaient pas physiquement les persécutions des Romains et tout ça. Donc, les chrétiens disent, mais voilà, la loi de Dieu, c'est l'amour, c'est le pardon et tout ça. Et voilà Mahomet qui se nomme un prophète et qui tue les autres, enfin, qui fait des batailles. La troisième chose, c'est le fait que la religion islamique est une théocratie, c'est-à-dire que c'est une religion franchement politique. Il n'y a pas de séparation entre ce qui est religieux et ce qui est politique ou le gouverne de la société. L'islam est un système de gouverne de la société. Franchement, les lois islamiques sont là pour être appliquées socialement. Il n'y a pas cette division que nous connaissons dans la foi chrétienne entre l'Église et la vie de l'Église et qui est plutôt axé sur le salut individuel et la grande société, parce que là encore, il a le dire de Jésus quand on lui a demandé est-ce qu'on doit payer les taxes à César, et Jésus a dit faites-moi venir une pièce de monnaie. Il a dit qui est l'effigie sur cette monnaie? Il a dit ben, c'est César. Il dit alors rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, selon les archives que nous avons, les évangiles et tout ça, Jésus ne semblait pas avoir jamais de but politique. Il avait même dit, par exemple, « Mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume est en vous, n'est-ce pas ?» etc. Donc, à chaque moment, et bien entendu, ça c'est une des raisons que les Juifs n'ont jamais accepté que Jésus était leur Messie, parce qu'eux, ils s'attendaient justement à un Messie qui mènerait une guerre et qui rétablirait les Juifs au-dessous des Romains, parce que les Juifs étaient persécutés, ils étaient sous le joug des Romains. Donc, Jésus a résolument évité, enfin, je parle des faits tels que nous les connaissons, donc tout ce que nous connaissons sur Jésus montre qu'il systématiquement, il a évité tout ce qui était politique et Mahomet a fait de la politique dès le début, en fait, de façon très ouverte. La foi islamique était résolument politique. Il y a donc la question de la guerre religieuse et de la sexualité. Alors, prenons d'abord la sexualité. Jésus a enseigné simplement la même moralité que Moïse. Il avait dit qu'il fallait le mariage, la fidélité dans le mariage. D'ailleurs, Jésus a resserré un tout petit peu la loi judaïque qui admettait le divorce. Mais Jésus a dit à un moment donné, on peut imaginer, bon, ça c'est une spéculation, je dis que j'allais simplement donner les faits, mais je vais spéculer quand même. Si vous voyez les 10 commandements, il y a certains commandements qui sont très évidents. Si vous rompez le sabbat, par exemple, tout le monde vous observe, n'est-ce pas? Si vous travaillez sur le sabbat, vos voisins vont vous observer, n'est-ce pas? Si vous êtes un voleur, vous allez être connu comme un voleur assez vite, n'est-ce pas? Si vous racontez des mensonges, les gens vont bientôt savoir que vous êtes un menteur. Mais l'adultère, c'est une chose qui peut se pratiquer dans l'obscurité, c'est-à-dire, il se peut très bien, enfin, comme nous voyons encore de nos jours, que l'adultère n'est pas une chose qu'on fait dans la rue, c'est pas, on ne le fait pas dans la place publique. Et donc, les gens ont, si vous voulez, une chance raisonnable de faire l'adultère, en supposant, peut-être que ce n'est pas vrai, mais en supposant qu'ils ne seraient pas punis, qu'ils n'auront pas découvert, n'est-ce pas? En tout cas, on peut spéculer que l'adultère était quand même assez répandu, malgré les lois et évidemment la punition pour l'adultère, c'était la mort, c'était la lapidation. Et donc, c'était très strict. Mais, enfin, juste pour terminer ma pensée, que je dise la chose suivante. On sait très bien que les Juifs ont fait l'adultère à gauche et à la droite, et il n'y avait presque aucun Juif qui n'a jamais été tué pour faire l'adultère. Donc, et si on lit la Bible, par exemple, il faisait des justifications comme, par exemple, il y a un passage que j'aime beaucoup où le type, il rencontre une jolie fille, il la séduit, ils ont un enfant ensemble, il a dit, mais c'est Dieu qui m'a dit de me coucher avec cette fille-là. Enfin, c'est toujours Dieu, c'est pas moi, je parle l'adultère, c'est parce que Dieu m'a dit, etc. Bon. Donc, ils avaient peut-être des justifications. En tout cas, Jésus a dit, Moïse vous a donné la loi de divorce, mais je vous dis, un homme qui divorce une femme pour épouser un autre commet l'adultère. Et ça, c'est évidemment ce qui était appliqué formellement dans l'Église catholique, comme nous savons, pendant des siècles, que la divorce n'était pas permise. Enfin, la divorce ou la séparation était permise, mais pas qu'on épouse une autre personne. Pas la divorce avec une séparation complètement légale et morale qui permettait aux gens d'épouser une autre personne. Et donc ça, c'était réellement, ça, c'était pas une invention de l'Église, c'était réellement la loi de Jésus. Il abolissait le divorce. Donc, il avait une moralité sexuelle extrêmement stricte, mais il avait quand même des théologiens qui ont ajouté à cela. Le fait demeure que Jésus n'a jamais eu de femme, il n'a jamais eu des enfants, il ne s'est jamais marié. Et donc, la notion est née un peu spontanément dans la foi chrétienne, que le célibat était un état spirituel plus pur que le mariage. Alors, c'était d'abord une sorte de perception, parce qu'on dit, ben voilà, Jésus est notre exemple, Jésus est notre messager, il vient de Dieu, c'est le Fils de Dieu, l'incarnation de Dieu. Lui, il ne s'est pas marié, donc le célibat est une condition plus pure ou plus élevée spirituellement. Paul a ajouté un très bon coup à la chose. Paul ne s'est jamais marié. Paul était le plus grand des missionnaires chrétiens. Et Paul a dit, sa vision était quand même assez axée. Ils attendaient le venu de Jésus, c'est-à-dire le deuxième retour de Jésus, dans un temps très proche. Alors, Paul a enseigné, il a dit, ça vaut mieux ne pas encombrer votre vie avec des responsabilités comme les femmes et les enfants et tout ça. Il faut être libre comme le vent, il faut aller partout, prêcher la parole de Jésus et tout ça. Ce que lui, il a fait. Enfin, on ne peut pas lui enlever ça. Il a dédié sa vie à faire ça. Et à un moment donné, Paul raconte toutes ses mésaventures. Enfin, il a passé par les naufrages. Enfin, il a été battu. Et il a été jeté en prison, etc. Et j'étais à Éphèse, qui est en Grèce, enfin c'est dans une île, où Paul a prêché, enfin le stade où Paul a prêché est toujours là, enfin c'est un stade romain. Et c'est vraiment impressionnant, quand vous entrez là-dedans, l'ambiance, vous pensez, vous êtes là, vous reculez 2000 ans, vous imaginez Paul qui prêchait devant des milliers de gens dans une ville, enfin il n'avait aucun chrétien. C'était un type donc très osé, très fort, très dévoué à la fois. Mais il a ajouté ce coup, il ne s'est jamais marié, il a dit, et lui-même il a dit textuellement, ce que Jésus n'avait jamais dit, qu'il valait mieux ne pas se marier. Mais il dit, si vous brûlez, c'est-à-dire de désir, il vaut mieux se marier que de brûler, c'est-à-dire de vous laisser engouffrer par le désir sexuel et tout ça. Donc, il voyait le mariage plutôt comme une sorte de remède à une maladie qui était la sexualité. Alors, c'était quand même une vision assez négative du mariage. Oui. Mais le dernier coup fatal était donné par Saint Augustin dans le IIIe siècle. Augustin avait mené une vie de débauche. dans sa jeunesse. Mais vraiment une débauche. Il avait fait toutes les débauches possibles. Et dans ses confessions, il raconte. Il était converti à la foi chrétienne. Et il est devenu un saint, Saint-Augustin. Il est devenu un philosophe. Il a écrit des ouvrages théologiques sur la foi chrétienne. C'est à Saint-Augustin qu'on doit la théorie du péché originel. Ça, c'est pas dans la Bible, le péché originel. Ça, c'est Saint-Augustin qui a émoussé cette notion de péché originel. Et entre autres, Saint-Augustin était horrifié de lui-même, de tout ce qu'il avait fait avant de devenir chrétien. Donc il est, pour ainsi dire, devenu encore plus chrétien que les chrétiens, si vous voulez. Dans ce sens-là, il a dit la chose fatidique que la sexualité était une moindre chose, même dans le mariage. Même dans le mariage. C'est-à-dire, il ne pouvait pas nier que les relations sexuelles étaient nécessaires pour la propagation de l'espèce humaine, et il était obligé à croire que Dieu avait fait les choses de cette manière-là. Mais il a dit, le plus haut état de spiritualité, c'est le contrôle qu'on parfait sur soi-même. Mais dans l'acte sexuel, on perd le contrôle de soi-même, on s'abandonne, pour ainsi dire, et ainsi, c'est un péché. Même dans le mariage. Donc ce n'est plus la chasteté, ce n'est plus la fidélité, c'est la malification du sexe même, n'est-ce pas? Ce qui a donné lieu à cette préoccupation malsaine de l'Église catholique des choses sexuelles. Ce qui a conduit, comme nous savons, à une immense hypocrisie. Parce que les prêtres, les papes et tout ça n'avaient pas de femmes, ils n'étaient pas mariés, mais ils avaient tous des enfants, ils avaient tous des maîtresses, après tout le monde le savait. Donc, non seulement donc il avait l'hypocrisie de prêcher le célibat tout en ayant des maîtresses et les enfants et tout ça, mais il a le fait que ses enfants étaient élevés évidemment sous l'ombre d'une sorte de malédiction, n'est-ce pas? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez faire quand celui qui est supposé être l'exemplaire de votre foi, enfin l'exemple, le prêtre ou le pape et tout ça, viole sa propre, il contrecarre ses propres enseignements. Et donc, au lieu que ses enfants soient élevés dans un foyer saint où la pureté spirituelle du mariage est reconnue, n'est-ce pas? Ils sont élevés comme les enfants bâtards, etc. Qu'on ne peut pas avouer publiquement, etc. Donc il y a, on ne pourrait pas passer toute une soirée là-dessus, mais disons que vraiment il y a 2000 ans de préoccupation, d'obsession de l'Église catholique sur cette question sexuelle, et ça a commencé, enfin il avait ces trois coups, mais le dernier coup, la notion que le sexe lui-même était impur, ça c'était Saint-Augustin, ça c'était jamais dit, même Paul n'a pas dit ça. Paul a simplement dit, il vaut mieux ne pas encombrer votre vie, il faut vous dédier complètement à prêcher la parole et tout ça, parce que Jésus va revenir bientôt de toute façon. Mais jamais Paul a dit que la vie de famille était, ou le sexe était impur, jamais il avait dit une chose pareille. Le raisonnement, c'est un peu le suivant, que la sexualité, c'est ce que l'homme a en commun avec les animaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il a l'âme et il a le corps. Alors, Jésus vient soigner nos âmes. Alors, tout ce qui touche au corps est impur, en quelque sorte. Donc, puisque la sexualité, c'est une chose physique qu'on partage avec les animaux, c'est animal, c'est impur, tout ce qui touche à l'âme est pur. C'était un peu le raisonnement, n'est-ce pas? Alors, comparer ça à Mohammed, qui avait 13 femmes. D'abord, Mohammed était, quand il était jeune, il avait une femme qui était Khadija, qui était une femme beaucoup plus âgée que lui. Elle était une femme assez riche, c'était une veuve riche qu'il avait épousée. Et il était son contrôleur, enfin il était son agent. Et Khadija était la femme de Mohammed quand il a reçu sa première révélation. Et elle était la première à croire en Mohammed. Elle avait cru en Mohammed. Mais elle est morte. Et puis après sa mort, après quelques années, Mohammed commençait à prendre des femmes. Maintenant, si on regarde l'histoire de l'islam, c'est assez évident pourquoi Mohammed avait épousé toutes ces femmes. Les peuples auxquels Mohammed s'adressait, c'était des tribus guerrières. C'était à peu près 300 tribus guerrières qui pratiquaient, ils enterraient leurs filles vivantes. Ils mangeaient même la chair humaine, c'était pas inconnu. Et ils se bataillaient continuellement, enfin. Les musulmans appellent cette époque-là, qui précédait Mohammed, l'âge d'obscurité. C'était l'âge d'obscurité. Abdu'l-Bahá nous dit que ces gens-là, les Qurayshites, comme ils s'appelaient, étaient pires que les sauvages d'Afrique, les cannibales d'Afrique. Il dit que c'était les gens les plus dégradés qui existaient sur la terre à ce moment-là. En tout cas, Mohammed avait vraiment un sacré job, pour ainsi dire, à éduquer et élever spirituellement ces gens-là. Alors donc, d'abord, il avait tiré autour de lui des disciples, un peu comme Jésus l'avait fait. Il avait des disciples, et ils étaient très persécutés. Et Mohammed a tout fait pour éviter de se battre. Ils ont fui, finalement, le Mecque, qui était le centre. Ils se sont établis à la Médine. Mais les Qurayshites, ça ne suffisait pas. Ils venaient avec faisaient des razzias pour attaquer Mohammed. Ils auraient pu simplement laisser vivre Mohammed dans la paix. Mais non, ça ne suffisait pas. Ils venaient chercher Mohammed. Alors finalement, ils n'avaient pas de choix, c'est-à-dire s'ils ne s'étaient pas battus, ils auraient été exterminés à l'homme. Ça c'était clair, ce n'étaient pas des gens, ce n'était même pas comme des Romains qui voulaient des esclaves pour travailler pour eux. Enfin, les Qurayshites voulaient simplement tuer. C'était vraiment, c'était pas comme la persécution romaine des chrétiens. C'était pire parce que c'était des gens qui prenaient un plaisir pur à simplement enrayer les tribus opposantes, n'est-ce pas, en fait. Donc, petit à petit, ces différentes tribus se sont converties à l'islam. Et donc, chaque fois qu'il avait une nouvelle tribu qui se convertit, Mohammed épousait une femme de cette tribu-là. Parce que dans l'esprit tribal, ces gens étaient très jaloux des uns des autres. Alors, si Mohammed avait une femme d'une tribu X, et pas une femme de la tribu Y, et bien la tribu Y va dire, mais voilà, Dieu aime plus la tribu X que nous, nous sommes des musulmans comme vous, pourquoi vous n'épousez pas une femme de nous? Est-ce que nos femmes sont moins belles? Est-ce que nos femmes... etc. etc. Alors il y aura la guerre qui aurait éclaté entre les tribus Y et les tribus X, malgré le fait qu'ils étaient tous deux musulmans, n'est-ce pas? Alors donc, c'était pour des raisons politiques, si vous voulez, que Mohammed avait pris, il avait systématiquement épousé une femme de chacune des tribus qui se convertissait à l'islam. Et pour ainsi, donc, pour cette raison-là, il avait plusieurs femmes. Et dans le Coran, il n'y a rien. Donc, d'abord, il a la différence de l'exemple de Jésus, qui était célibataire tous ses jours, tandis que Mohammed avait des femmes, donc des relations sexuelles. Il avait des enfants, il avait sa fille Fatima et tout ça. Qui a épousé Ali, qui est devenu son gendre, etc. Donc il avait une famille de Mohammed, une ligne de Mohammed, et donc c'était tout à fait différent de Jésus, sur ce point-là. En plus, Mohammed a donné des lois de divorce très claires. Il avait limité le nombre de femmes à 4, mais il avait permis la polygamie. Donc ça, encore une fois, l'Église chrétienne, enfin les chrétiens ont toujours dit, mais voilà, si Mahomet est venu après Jésus et nous disons qu'il y a un progrès dans la religion, mais c'est une rétrogression. Mahomet a permis la polygamie, tandis que la foi chrétienne ne l'a pas permis. Mais en fait, tout ce que Mahomet fait, c'était de consacrer ce qui est déjà la pratique. C'est-à-dire, s'il avait limité les hommes à une seule femme, ils auraient eu des maîtresses et tout, et tout, et tout, étant donné la condition. Il y avait une deuxième raison, que beaucoup des hommes ont été tués dans les batailles. Les femmes étaient beaucoup plus nombreuses que les hommes. Et puis les femmes, les conditions des femmes avant Mahomet, chez les Qurayshites, les femmes étaient vendues comme objets sexuels, ils étaient des esclaves, ils n'avaient pas de droits, on considérait qu'elles n'avaient pas d'âme comme les hommes, etc. Les femmes étaient, les conditions de la femme étaient absolument incroyables. Et comme j'ai dit, ils enterraient vivantes leurs filles, nouveau-nées, parce que c'était une honte que la première née soit une fille. Okay? Il fallait que l'aînée soit un homme, n'est-ce pas? Évidemment, ils ne voulaient pas tuer toutes les filles, parce que, évidemment, les filles servent à quelque chose. Donc c'était vraiment cette condition. Alors, donc, une femme mariée était sous la protection de son mari. Donc, la femme, quand elle était enfant, elle était sous la protection de son père. Alors, quand elle se mariait, elle passait de la protection de son père à la protection de son mari. Donc, pendant toute sa vie, la femme était sous la protection d'un homme. Et c'était la façon de Mahomet, donc, de créer un certain espace libre pour les femmes. Les femmes étaient quand même libres dans le foyer, ils avaient les enfants, ils avaient l'amitié avec les autres femmes et tout, et tout, et tout. Ils avaient quand même une certaine vie, une certaine liberté. Donc ça, c'était aussi une des raisons que Mahomet a admis la polygamie, c'était pour la protection des femmes. Parce que autrement, supposons qu'il n'avait pas fait, par exemple, il a dit monogamie stricte, les hommes auraient simplement pris des maîtresses, ok? L'adultère, d'accord, Mahomet a défendu l'adultère, mais Moïse aussi. Et les Juifs avaient plein de maîtresses, et comme j'ai dit, la peine pour l'adultère chez les Juifs, c'était la mort. Et cette peine n'était presque jamais appliquée, en fait. Donc, on peut dire que les gens admettaient l'adultère en judaïsme. Alors, Mahomet aurait était confronté à la situation que les hommes ont eu des maîtresses, et ces maîtresses n'étant pas légales, donc pas sous la protection de l'homme, elles auraient été simplement comme des prostituées ou des femmes qui étaient complètement laissées pour compte, n'est-ce pas? Donc, Mahomet a créé une situation où la femme était toujours protégée dès sa naissance jusqu'à sa mort. Et qu'on le croit ou non, la condition de la femme a beaucoup amélioré sous l'influence de l'islam, par rapport à la situation qui précédait, bien entendu.
Oui. Je crois aussi, si je ne me trompe pas, qu'il avait admis...
Avec justice absolue.
Justice. Oui, à condition qu'on pouvait les faire vivre.
Oui.
C'est ça.
Avec justice,
la même justice
pour chacun.
Oui, c'est ça.
Une autre condition.
Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et pour la deuxième question, j'ai traité la fée de guerre, c'est-à-dire que Mahomet, ils ont été exterminés, ils étaient face à des gens qui les auraient tout simplement exterminés, n'est-ce pas, s'ils ne s'étaient pas battus. Et la troisième chose, c'est-à-dire la gestion politique, enfin le côté politique de l'islam, c'est des lois dans le Coran, ce qu'on appelle aujourd'hui la charia, n'est-ce pas, la loi coranique. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais ce qui est absolument incroyable, si vous lisez attentivement le Coran, si vous regardez le charia, vous allez voir une chose absolument incroyable qui montre le génie de Mahomet. Toutes les peines, toute la gestion de la loi se fait presque sans administration. C'est quasiment automatique. Par exemple, comme vous savez peut-être, vous commencez à savoir, dans la foi Baha'i, il y a tout un système d'administration qui fait partie de la foi. Les conseils et tout ça, Baha'u'llah a décrit une administration. Mahomet a donné des lois pour le gouvernement de la communauté, mais avec un minimum d'administration. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Pour l'adultère, pour prouver l'adultère, il faut des 4 témoins oculaires. Et de bonne réputation. Alors,
et Je
suis
en plus au bordel,
moi,
je ne suis pas si dans
bonne
réputation.
C'est ça.
Ils l'ont perdu, là.
C'est ça. C'est ça, oui.
Quatre témoins oculaires de bonne réputation.
Et puis, pour les autres choses, il a spécifié non seulement la peine, mais les conditions sous lesquelles on pouvait appliquer la peine, c'est-à-dire pour le vol et tout ça, bon, on avait coupé la main d'un voleur, mais il fallait avoir des témoins oculaires du vol, etc. Il avait spécifié même les conditions dans lesquelles on pouvait appliquer la peine. Maintenant, ce qui est arrivé dans l'islam, c'était plutôt les moulas, les prêtres et tout ça, ont pris le pouvoir, ils ont saboté la chose, ils ont pris la possession de charia. Mais si vous lisez le charia tel qu'il est dans le Coran, c'est vraiment incroyable. Parce que c'était un peuple dans le désert, il n'avait pas beaucoup de ressources et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes dans le désert et quelqu'un commet un vol, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous plaindre aux autorités. Quelles sont les autorités? Vous êtes dans une oasis, n'est-ce pas, avec 3 personnes, il y a un qui fait un vol, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Ça, c'était les conditions. Donc, il avait tissé une loi qui pouvait s'appliquer dans n'importe quelle condition. Si vous avez 3 ou 4 personnes, il y a un qui fait un vol, si les autres sont témoins, et puis ben voilà, il est un voleur, on lui coupe la main, et ben ça finit là, n'est-ce pas? Alors, et tout le monde sachant cela, ben, il va penser 2 fois avant de voler, n'est-ce pas? Alors, c'était un système absolument génial. Comparons avec Jésus. Supposons, parce que souvent les gens ont dit, mais pourquoi Jésus a accepté toute cette injustice de Rome? Pourquoi il n'a pas prêché la révolution sociale? Pourquoi Jésus n'a pas dit à ses disciples, mais voilà, les Romains sont injustes, alors allez vous battre contre les Romains, etc. Alors, essentiellement, si vous regardez très très bien les conditions de vie dans le cas de Jésus, enfin dans l'époque de Jésus, il y avait des rébellions contre Rome. Il y avait par exemple l'histoire de Spartacus qu'on connaît assez bien, les esclaves qui se sont rebellés. Ça finit toujours par le massacre, parce que les Romains, ils avaient le pouvoir, n'est-ce pas? Ils avaient un pouvoir, ils étaient comme en Union soviétique ou comme en Allemagne d'Hitler,
bon exemple.
C'est ça, hein?
Il fait allusion à l'Union soviétique
en tant que représentante.
Et puis...
KGB.
Oui. Donc ils avaient un pouvoir absolu. Et donc, si Jésus avait prêché la rébellion sociale, ses adeptes auraient foutu la rébellion, et dans une génération, ils auraient été tout exterminés, et ça aurait fini là. Ok? Donc, tout comme Mahomet était un génie dans sa façon de construire un système de loi qui pouvait s'auto-appliquer, qui a fait de ses adeptes la plus grande civilisation que le monde n'a jamais vue, n'est-ce pas? Jésus a, dans d'autres conditions, trouver une solution aussi fine. Jésus avait dit à ses élèves, écoutez, vous avez des conditions misérables, je le sais. Moi, je vais vous donner la perle du plus grand prix. Je vais vous donner des trésors au ciel. Je vais vous donner une relation intérieure entre vous et Dieu qui est tellement envoûtant, qui est tellement précieux que quand vous avez cette relation, vous vous foutez de vos conditions matérielles. OK? Quand vous buvez de ce vin, de l'amour de Dieu, quand vous découvrez cette communion intérieure, le royaume de Dieu est en vous, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à la chercher à l'heure. Vous n'avez pas à foutre la rébellion contre les Romains parce qu'ils n'ont rien dont vous avez besoin. Mon royaume est dans vous. C'est déjà dans vous. Vous n'avez pas à chercher ailleurs. OK? Donc, pour chercher la perle du plus grand prix, il faut chercher les trésors au ciel qui ne se dégradent pas, qui sont permanents. Et ça, c'était cette communion intérieure avec Dieu, ce réchauffement du cœur qui vient par le Saint-Esprit. Et Jésus avait donné cela, qui avait permis à des millions de gens, pendant 2000 ans, de vivre des vies heureuses dans des conditions matérielles incroyables. Alors, qu'est-ce qui aurait été plus grand, que Jésus fasse ça ou qu'il foute la rébellion contre les Romains qui, dans deux générations, a été complètement estampé et rien ne resterait de ça, n'est-ce pas? Je pense surtout aux marxistes, aux communistes, qui ont toujours reproché aux chrétiens, ils acceptent, Marx avait dit, mais voilà, Jésus prêche la soumission à l'injustice. Mais ce n'était pas du tout ça que Jésus prêchait, la soumission à l'injustice. Il a dit, il faut chercher ce lien avec Dieu, ce que toute injustice ne peut pas vous ôter, n'est-ce pas? Et les chrétiens, bien entendu, étaient sommés à traiter avec justice entre eux, n'est-ce pas? Donc au fur et à mesure que la foi chrétienne se répandait, il avait quand même la justice et l'entraide et la solidarité et tout ça. Mais juste pour citer un exemple que j'aime bien citer, pensez à la chose suivante. Les Noirs d'Afrique étaient amenés en esclavage de l'Afrique aux États-Unis, au sud des États-Unis, il y a 300 ans et quelques. Ils étaient des païens, ils connaissaient aucune religion. Ils ont appris la foi chrétienne de leur maître blanc, qui croyait, entre autres, que les Noirs étaient des animaux, qui n'avaient pas d'âme. Ça, c'était très explicite. Les sudistes étaient des bons chrétiens. Je suis descendant des sudistes américains, ok? Les sudistes, non, étaient des bons chrétiens, ils croyaient en Jésus et tout, et tout, et tout. Donc, il n'est pas permis à un chrétien de subjuguer un autre chrétien. Mais les Noirs n'avaient pas d'âme, ce n'étaient pas des hommes, mais des bêtes. Donc, c'était permis de les subjuguer. Mais, et c'était défendu, par exemple, d'apprendre à un esclave de lire. Autrement dit, ils ont mis tous les empêchements pour permettre de garder cette image que les Noirs, c'était des gens bêtes, incultes, incapables, etc. Donc, ce n'était pas oui dire, simplement écoutant les Blancs parler de la foi chrétienne que ils avaient pris la foi chrétienne. Ils ne pouvaient pas lire la Bible, ils ne pouvaient pas lire. Mais ils ont appris l'histoire de Jésus et tout ça, les souffrances, et ils sont devenus chrétiens, ils sont devenus réellement croyants, et cette croyance leur a permis de survivre à cet esclavage incroyable, n'est-ce pas? Et finalement, même encore aujourd'hui, si vous allez dans les églises noires aux États-Unis, vous allez trouver un esprit tout à fait différent, des églises blanches, n'est-ce pas? Parce que la religion chrétienne était le salut de ces Noirs. Donc, ils ont pris cette religion, les Blancs leur ont transmis la religion, mais les Noirs ont pris cette religion, ont fait de cette religion leur religion, à pratiquer à leur façon, ok? Et par exemple, les Noirs qui faisaient le, comment ça s'appelle, le chemin de fer souterrain, enfin, qui sortait les esclaves du Sud pour venir au Nord et au Canada. Ils avaient tous des noms, des apôtres, etc. Ils prenaient tous des noms de bon, Moïse, Jésus, Paul, etc. Enfin, ils prenaient tous des noms chrétiens. Ils étaient connus par des noms chrétiens. Et quand si les Blancs les entendaient parler, ils pensaient qu'ils parlaient des choses... ils pouvaient parler devant les Blancs de Moïse... va venir ce soir-là, et puis là, ils ont des visions de Moïse, je ne sais pas quoi. Et puis aussi, les spirituels noirs qu'on connaît, les chansons noires, c'était aussi, ils chantaient en travaillant, mais c'était une façon de communiquer entre eux. Enfin, ils chantaient des chansons, certaines chansons voulaient dire qu'il avait ce soir-là des esclaves qui allaient s'échapper, etc. Et pas, donc, tout ça, bon. Alors, je vous épargne toute la chose, mais c'est très intéressant. Mais juste pour dire que voilà, le génie de Jésus, c'est que il est venu il y a 2000 ans, et son enseignement a libéré les esclaves 2000 ans plus tard, dans un pays supposément chrétien, n'est-ce pas, par des gens qui étaient soumis à l'esclavage et tout ça. Donc, tout ça pour dire donc, que ces différences entre la foi chrétienne et la foi islamique, sur lesquelles les chrétiens s'appuient pour dire que Mahomet est un faux prophète, parce qu'il a vu plusieurs femmes, parce qu'il s'est battu, parce qu'il avait érigé un système politique, c'est exactement ce que Jésus aurait fait si Jésus était venu en Arabie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la même chose que Jésus a fait, c'était de donner un enseignement qui permettait les gens d'avancer spirituellement dans les conditions dans lesquelles ils vivaient. Et Mahomet a fait exactement la même chose dans son entourage qui était évidemment beaucoup, beaucoup pire. Maintenant, l'image de l'islam qui se fiche aujourd'hui par les musulmans intégristes, les terroristes qui prennent le jihad et tout, et tout, et tout, en fait, tous les martyrs qui se tuent, etc. Toutes ces choses-là, tous ces excès, et la condition de la femme aussi, et ça c'est une autre chose que je peux parler, on sait que la condition de la femme maintenant dans les pays musulmans est horrible, mais toutes ces conditions... que l'islam, tous ces préjugés que l'Occident a sur l'islam, les musulmans les remplissent tous, n'est-ce pas, avec leurs actions. Mais ça, c'est une déformation de la foi de Mahomet, aussi grande que l'Inquisition espagnole ou les croisades constituent une déformation de la ou le célibat, d'ailleurs. Constitue une déformation de l'enseignement de Jésus, n'est-ce pas? Donc, ce que nous avons, c'est deux déformations complètes de ces deux religions qui maintenant, au nom de leur prophète, se confrontent. Et puis, chacun croit absolument avoir raison. Et ce qui va être l'issue de la chose est loin d'être évident, n'est-ce pas? Ou comment ça va se régler, pour ainsi dire, est loin d'être évident. Mais je pense qu'il est important quand même, au moins pour nous, de savoir que c'est essentiellement une confrontation idéologique et politique qui est enveloppée d'un discours religieux, mais qui n'a pratiquement rien à voir avec l'enseignement originel, soit de l'islam, soit de la foi chrétienne. Ok, voilà.